Au cœur de la ville d'Auch, dans le Gers, l'espace départemental d'art contemporain Memento, logé dans un ancien carmel en réhabilitation, est à la fois un lieu d'exposition, d'expérimentation et d'excursion artistique. Ouvert aux arts depuis 2016, chaque année la programmation mêle art contemporain et musique, du jazz à l'électro, jusqu'à des formes plus théâtrales ou des performances. Des bulles de découverte en entrée libre. Luxie Bright s'est immiscée dans ce lieu cet été, aux côtés de la directrice artistique Karine Mathieu et à la rencontre du musicien-performeur Mézergue, qui y a présenté son one-man band original, où se mêlent électro et sons venus des Balkans. En cette rentrée 2019, votre reportage mensuel Quartier d'art en immersion au sein d'un lieu d'art revient donc. Bonne visite.
Bonjour, je m'appelle Karine Mathieu, j'ai en charge donc ce lieu, Memento, qui est un espace départemental d'art contemporain, qui est un espace assez atypique puisque ce lieu était un ancien carmel où vivaient des carmélites. Puis il est devenu archive départementale et a été fermé pendant 10 ans. Et ce lieu donc est situé en plein cœur de Auch, en centre-ville, assez invisible de premier abord. Et l'aventure a débuté d'une manière extrêmement, j'allais dire, étonnante et à la fois chargée d'engouement. Cette bâtisse appartient au conseil départemental du Gers. Et donc, ils avaient un souci qui était, en effet, de disposer de ce patrimoine fabuleux, absolument endormi, et des grosses pressions immobilières, comme partout en fait, on connaît en France. Et le pari relevé par le département a été de mener une aventure au sein de ces espaces en invitant des artistes d'art contemporain. Donc l'histoire, oui, est assez atypique, tant par son historique d'abord, et que aussi ce qu'elle propose au public. Donc le lieu a été découvert endormi, fermé 10 ans, donc tu disais c'était la 4e édition cette année, et avec le conseil départemental du Gers, on a vraiment voulu réfléchir à comment des artistes d'art contemporain et des œuvres d'art pouvaient prendre corps dans les bâtisses de cet ancien carmel, qui garde les stigmates aussi de l'ancienne archive, comme tu as pu voir, des étagères au milieu d'un cloître, des écritures, des espaces absolument pas dédiés à l'exposition, puisqu'on on peut passer d'une ancienne chapelle à des espaces privés qui étaient les appartements du conservateur, en gardant même la tapisserie d'origine années 70.
Il a quel âge ce lieu?
En fait, on retrouve ces traces, en tout cas dans la rue, mais c'est 19e en fait. Voilà. Et après, il faut savoir que ce qui est assez étonnant aussi, c'est que quand les carmélites quittent un espace, elles prennent les archives avec elles. D'accord. Donc on a des traces plus ou moins, on est en train d'enquêter sans cesse avec les équipes. Mais c'est assez intéressant de voir comment la mémoire génétique se porte, puisqu'après c'est devenu des archives, mais finalement on n'avait pas forcément des archives et on est en train d'enquêter là-dessus. Et donc la volonté de Memento a été vraiment, dès le départ, de repenser aussi la notion même d'expo en art contemporain. C'est-à-dire aujourd'hui, on est assez habitué à aller dans des fameux lieux White Cube où les artistes peuvent exercer. Là, c'est un peu l'inverse. En tout cas, ça amène aussi les artistes à revoir leur manière de travailler, puisque l'invitation se passe dans des espaces qui peuvent être extrêmement marqués, extrêmement présents, où l'idée de tout gommer n'existe pas, mais au contraire, c'est plutôt l'inverse, c'est révéler, ou en tout cas, voir comment l'artiste se lance dans une expérience.
Et s'approprie l'espace, du coup. Donc...
Exactement. D'accord. Et du coup, l'aventure, en tout cas, d'une expo qui, comme je te disais, durant l'été estival, de mai à septembre, et vraiment d'embarquer aussi dans notre volonté le public dans ce mariage, je ne sais pas si je suis une marieuse, mais en tout cas dans cette cohésion entre là, une question de fond, comment des artistes se saisissent d'espace, travaillent en fonction du lieu, et comment à un moment donné le public déambule aussi, puisque ouais. Tu as pu le voir, on perd un peu pied, notamment dans cette exposition, où à un moment donné on ne sait plus si on est en... où se passe la frontière entre l'espace patrimonial et la création,
ouais.
Comment les œuvres arrivent là presque comme une évidence, où on ne se pose plus la question de la temporalité, ouais. Et on est presque dans une excursion artistique en fait, où l'œil est tout le temps en éveil, on descend, on remonte, on arrive dans un jardin, puis on rentre dans une pièce où un artiste a totalement saisi l'espace.
Ouais.
Et à chaque année, en fait, l'idée aussi, et ce qu'on voulait avec le département, c'est vraiment que les travaux, par exemple, soient guidés exclusivement par les œuvres.
Les travaux, c'est-à-dire
des espaces, pardon. Oui, à chaque fois, on essaye de réouvrir des espaces qui étaient fermés.
D'accord.
Puisque tu as pu voir autour de toi, il y a plein de volets encore fermés, il y a 1200 mètres carrés. Et aujourd'hui, on a commencé à habiter tout le rez-de-chaussée en semi-étage, mais on est encore à 3 étages. En fait, c'est un labyrinthe.
L'espace continue à grandir.
Mmh. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on évolue aussi chaque année. Moi, en commençant à faire corps avec ces espaces, ouais. Je vois très bien ce qui se réveille. Au tout début, on était vraiment dans une réflexion. Alors, thématique, j'avoue que ce mot il est un peu complexe parce que des fois c'est des fourre-tout les thématiques, ouais. Et il me semble que ça vient un peu coincer les angles de vue, mais finalement on se rend compte que comme toute histoire tu tisses une trame de...
Ouais. Ça peut être un point de départ aussi.
Exactement. Pour ensuite, ouais. Moi l'idée en tout cas très vite c'est que quand je conçois une exposition je me crée un scénario dans la tête,
ouais.
Dans lequel je fais... Je me fais évidemment mes propres films, comment le spectateur peut déambuler, etc. Et surtout comment les artistes peuvent s'en saisir. Et à un moment donné, dans cette histoire, arrivent les acteurs qui ne se connaissent pas forcément, puisque les artistes peuvent être issus de la scène nationale, internationale, mais aussi régionale. Et avec aussi une, j'allais dire peut-être une spécificité, mais c'est peut-être pas une spécificité, en tout cas c'est un engagement. L'idée est de vraiment embarquer les œuvres et la création en premier, plus que des noms ou des têtes d'affiche. Et donc, on peut très bien voir présenter une œuvre d'une collection d'un FRAC, d'un Fonds Régional Contemporain, qui pourrait dater des années 2000, par exemple, avec un jeune artiste qui vient spécialement créer pour le lieu, ou même une œuvre aussi qui me semble, à un moment donné, évidente dans le propos. Et aussi de pouvoir mettre dans la programmation, en fonction de quelle histoire on crée, des artistes qui peuvent avoir une renommée, je te dis, internationale,
ouais.
Ou une jeune création. Il n'y a pas de hiérarchie en fait. On fonctionne comme les strates du lieu. C'est-à-dire, on en parlait ensemble, c'est vrai que c'est une forme de millefeuille cet espace.
Ouais.
Et l'idée, c'est comment ce millefeuille vient en fait de... créer une trame où là c'est l'œuvre ou la création qui vient rajouter une histoire dans l'histoire.
Donc la saison, enfin l'ouverture au public se fait de mai à septembre,
ouais.
Et donc ensuite les artistes sont en résidence pendant tout le reste de l'année.
Voilà, l'hiver ça marche en fonction, tout fonctionne en différents temps, il peut y avoir des rencontre assez proche, tu vois, dès le démontage,
oui.
Les travaux, comme je te disais, et que l'artiste vient, pense son projet, et on refait des travaux. Chaque espace, à chaque fois aussi, sont renouvelés.
Ouais.
Donc, pour le public, c'est aussi une forme de redécouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour monter une simple simèse ou un mur, on est vraiment là pour activer cette année. Par exemple, on a percé un plafond pour qu'un artiste puisse créer une caméra obscura. Donc on a retiré l'électricité tout en haut. Donc tu vois vraiment l'idée c'est que les artistes puissent avoir le temps de suivre aussi tout ça avec les équipes.
Ouais.
Et on est aussi dans ce fonctionnement très transversal. Quand je parlais qu'il y avait de la notion de non-hiérarchie dans la programmation, il y a aussi ça dans les équipes. Très vite, tous les techniciens travaillent directement avec les artistes en lien avec eux pour faire vraiment corps autour de l'œuvre et du projet.
Ouais.
Cette année, justement, on est, à mon avis, dans une nouvelle réflexion, puisque En fait, on continue encore une fois d'expérimenter, au même titre que les dactyles, moi aussi. On pouvait faire les autres années des expos très collectives avec beaucoup d'artistes dans plusieurs espaces. Cette année, l'idée a été vraiment, pour répondre aussi à ta question de la thématique, de moins travailler sur un axe premier, mais encore plus aller dans le lieu. Et l'exposition s'appelle Quatrième Mur. Je suis partie sur cette volonté de me rendre compte que le lieu était comme un système de poupées russes, de décor dans le décor, qu'on pouvait passer très très vite d'une ambiance à une autre que le lieu nous imposait. Et tout ça devenait un petit monde, presque comme les dioramas, tu vois, au 19e siècle. Et donc j'ai invité des artistes qui questionnent cette notion de décor dans l'art, de paysage naturel artificiel et de la relation entre la création et le public.
Ouais.
Donc Quatrième Mur vient de là, ça fait complètement référence aussi au théâtre, le fameux briser le quatrième mur. Et avec les artistes, la volonté a été très vite de mettre le public au cœur de cette réflexion, dont il arrive dans une immersion totale avec une œuvre de Simone Decker, plongée dans le noir, qui l'installation s'appelle Ghost. C'est une collection publique du FRAC Montpellier, Occitanie. Et donc là, on avait des sculptures qui sont en fait des répliques à l'échelle 1 de monuments présentés dans l'espace public qu'on oublie aujourd'hui, c'est-à-dire soit des œuvres d'art contemporain, exemple Bernard Venet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe lorsque des œuvres sont présentes dans l'espace public et se font tellement dans le décor que plus personne ne regarde, et qu'est-ce que ça devient aussi cette collection? Et là, je faisais évidemment référence aux archives.
Ouais.
Tu arrives presque dans une forêt de sculptures de 6 mètres, donc tout d'un coup, tu es complètement immergé dans le noir avec ces sculptures qui sont phosphorescentes, donc on ne comprend pas très bien d'où vient la lumière.
Ouais.
Et tu déambules dans l'immensément grand, avec des formes que tu peux reconnaître facilement parce que tu l'as passé dans ton paysage habituel, un lion, etc. Une sculpture de lion qui fait partie du patrimoine français, souvent présent dans les villes, mais aussi, en effet, un Bernard Venet, un Churchill, et qui sont finalement, l'artiste dit, c'est des formes de monstres pour elle, qui sont complètement aujourd'hui devenues fantomatiques.
Oui.
Et avec elle, c'est vrai que la question de le présenter dans une chapelle était extrêmement évidente. De pouvoir à un moment donné qu'est-ce qui se passe dans un lieu aussi chargé d'histoire, de spiritualité, comment aujourd'hui les œuvres peuvent devenir désacralisées pour elles, fondues dans un paysage, et comment elles se resacralisent par simplement le fait de l'éclairer par la lumière du jour, sans le public, et quand le public arrive et qu'il est plongé dans le noir, tout d'un coup elles prennent une espèce de lumière quasi fantomatique.
Ouais.
Voilà. Et quand tu arrives, tu te rappelles, tu pousses le fameux rideau et pouf, tu es immergé direct, tu perds tes repères.
Ouais.
Et là, tu arrives dans un deuxième espace que nous appelons le salon rouge, parce que quand on l'a découvert, il était rouge, maintenant il n'est plus. Et ça aussi, ça intéresse beaucoup les artistes de savoir les appellations, comme dans l'histoire, qui se dépassent en fait. On ne sait plus pourquoi il y a des appellations. Mais... Et là, Armand Morin est un artiste belge, qui lui travaille beaucoup sur les notions de décor. Il est intéressé par les espaces où, quasi déshumanisés, des anciens, par exemple les anciens JO d'Athènes. Qu'est-ce qui fait, comment la nature tout d'un coup, par l'intervention de l'homme, et parce que ça a été abandonné ou pas, devient une forme comme ça de paysage absolument présent mais qui est plus du tout habité, et voir aussi comment même la nature réanime des anciennes poudrière, par exemple. Aujourd'hui, la nature peut le réinvestir, mais c'était avant tout des bâtiments en béton, etc., qui modifiaient le paysage. Et ici, pour Memento, il a travaillé spécialement, comme je te disais, pour le lieu. C'était assez fascinant quand il a visité les endroits et tous les étages où le public n'a pas accès. Tu as des rayonnages entiers de bois qui accueillaient les anciennes archives, qui viennent en fait se greffer sur les anciennes cellules de Bonne Sœur. De Carmélite, pardon. Ce lieu-là était fascinant pour moi parce que quand on l'a découvert il y a 5 ans, c'est un terrain de jeu fantastique, mais le public ne peut pas y encore accéder pour des raisons de sécurité. Et Armand me dit, mais c'est incroyable, on sent de suite l'énergie de qu'est-ce que c'est là, tout ce qui est caché, non montré, voire même enfermé. Les Carmélites vivaient recluses. Et très vite, il a eu l'idée de se dire, mais il faut absolument qu'on amène le public là à convoquer ce qui se passe en haut, sous nos yeux, au-dessus de nos yeux plutôt, qui est un vrai décor mais que personne ne voit. Sa volonté était de jouer avec l'instant T du lieu, là aussi, au même titre que Simone avec la lumière, on a des éléments quasi organiques, presque de l'ordre d'un écosystème paysager. Et là, c'était de se dire, évidemment, je pourrais filmer le haut et le reprojeter en bas, mais en fait, il faut complètement mettre en circulation ces espaces. Et il a créé une caméra obscura, donc l'ancêtre de la photographie, qui tourne en direct. Et aujourd'hui, donc, quand le public arrive, elle se déclenche à la position du public, à sa déambulation, et elle ne s'anime évidemment pour faire apparaître tous les espaces du haut et créer une forme très fantomatique qui sont cette apparition presque en panorama qui tourne de ce lieu. Jérôme Souillot s'est saisi de la salle de classement, qui est un espace assez étonnant, il y a une table énorme comme ça, qui servait, on pense, de réfectoire au tout début. D'accord. Et après qui a servi pour classer et travailler en fonction d'archives. Et Jérôme est rentré en résidence, il a commencé dès début mars, et non-stop il n'a pas arrêté de peindre dans le lieu, donc des îlots, des petites scénettes paysagères entre autres. Et son œuvre s'appelle Je reste là, puisque son idée, lui aussi, c'est qu'il veut tout le temps continuer. Il vient de peindre fréquemment, sans l'annoncer comme un événement ou une performance, mais vraiment être là, et le public aussi peut à un moment donné voir en progrès. Et l'idée là aussi, c'est de désacraliser le travail de l'artiste. Il peut être là, rencontrer les gens, c'est pas une obligation, on l'annonce pas comme un événement, en tout cas,
voilà. Murs,
exactement. Et quand on continue après tous les espaces, peut-être pour finir, on a tout un accès qui est plus industriel, qui étaient toutes les salles d'atelier et anciennes cellules au confessionnat des Carmélites, où là on a Rémi Duprat, qui est un artiste qui vit dans le Béarn. Jérôme Souillot est de Toulouse, et Rémi vient justement d'être sélectionné au Salon Montrouge à Paris, dans la jeune création. Et Rémi se questionne beaucoup sur la notion de factice et de réel dans le paysage, et voire même de décor. Est-ce que tout ce qui est question showroom, comment se présentent ces univers-là, les jardins des gens qui reconstituent, tu rigoles, mais on voit très bien qu'à un moment donné, le rapport au décor que peuvent avoir les gens avec leur univers paysager. Et pour Memento, il a expérimenté spécialement pour nous, il l'avait jamais fait, le vivant aussi, il a voulu créer un vivarium vrai-faux où tu peux te retrouver en train de déambuler dans des sculptures de pleurotes qui poussent en organique et qui vivent, alors avec une poussée où tu peux complètement du coup faire une cueillette et pouvoir manger même ces fameuses pleurotes, où là tout d'un coup on revient presque dans ces mémoires, je te parlais de ces fameux dioramas, mais presque aussi les anciens zoos, les anciens musées botaniques, et là on est complètement dans une imagerie où le public déambule à travers des vitres sur un mini décor où on ne sait plus du tout si qu'est-ce qui est vrai et faux. Il y a une autre pièce qui s'appelle Tellement Sauvage, qui est une constitution d'un tronc d'arbre avec une plante absolument magnifique. On est presque dans une image très exotique, comme des certaines palmeraies, à part que c'est fait en panneaux d'isolation de maison, et qui ne se voit absolument pas. Et là, les personnes sont mises dans un rapport où on est presque dans une mémoire, je te disais aussi, comportementale, quand tu cherches la fameuse araignée que tout le monde cherchait, ou tu vois, dans ces notions de vivarium plutôt à l'ancienne. Et donc on déambule jusqu'à trouver une sculpture aussi dans un faux vrai escalier qui mène nulle part, du mont Everest, qui est la reconstitution d'une montagne faite par Rémi, où on ne sait plus si on est dans la carte postale. Sur les rapports d'échelle, là aussi. Là aussi, c'est des plaques d'isolation pour maison. Voilà. Et donc, tu vois, on joue tout le temps aussi sur cette notion de l'œil, du comportement reculé, avancé. Dans Jérôme Souillot, tu peux toucher la peinture, ce qui est plutôt assez rare en général, ou tu peux aller sous la table, vérifier s'il ne nous a pas mis une petite scénette paysagère, qui en effet, effectivement, là, il en met partout. Et on finit par une œuvre vidéo de Clément Cogitor, donc ce fameux artiste vidéaste qui a reçu le prix Marcel Duchamp l'an dernier, où l'œuvre s'appelle Memento Mori. Et là, pareil, tu es traversé par En fait, finalement, un tableau en mouvement, c'est une vidéo qui s'étend dans le temps et où tu peux découvrir à un moment donné une tribu de loups. Et petit à petit, tu commences à comprendre que ces loups vivent dans un jardin d'enfants, un décor, et tu comprends que tu es derrière une vitre et que tu es dans un zoo. Et voilà. On est vraiment dans un cocon aussi, là, très, très intéressant, je trouve.
Ouais.
Très familier, finalement. J'ai l'impression d'être presque dans une maison de chez quelqu'un. Et tu descends et tu tombes sur ce cloître que tu ne vois pas à l'arrivée. Donc là, il y a un espace aujourd'hui, pour nous, en effet, qui invite le public à se poser. Il y a des chiliennes.
Et c'est donc dans ce cloître que se tiennent les concerts.
Tous les mercredis.
Tous les mercredis, ouais.
De juillet à août.
Pendant la même période. De juillet à août.
Voilà, tous les mercredis de juillet à août. Ouais. C'est, l'idée de cette programmation a été d'offrir, j'allais dire, une bulle aussi artistique, mais dans différents champs. Donc là, notamment les arts musicaux au sens large,
ouais.
Avec vraiment de 19h à 21h, une possibilité de venir avant voir l'exposition. Ce que je t'ai expliqué aussi, c'est remettre en lien les publics.
Ouais.
Certains vont aller dans tel domaine et pas dans l'autre. Nous, on a vraiment envie de remettre en circulation tout ceci et d'ouvrir en plus grand nombre.
Marc, on est dans le cloître du Memento où tu as fait un concert du coup ce soir. Tu étais tout seul sur scène. Est-ce que tu peux nous décrire vite fait ton setup, le matos que tu avais avec toi?
Bah alors du coup l'idée en fait à la base c'était de l'idée c'est parti du ce que j'appelle le piano boom boom où en fait à la base c'était un piano droit auquel j'ai rajouté petit à petit une grosse caisse et après un charlet.
Ouais.
Donc on était sur quelque chose d'assez rudimentaire et l'idée c'était voilà d'essayer de même à l'époque de taper en fait je sais pas de donner une caricature de la sensation électronique dans la rue ou dans un tramway quoi, c'est parti de là. Et en fait petit à petit j'ai voulu faire évoluer le truc et la musique aussi, donc ça passait par l'évolution du matériel.
Ouais. Et donc à la base c'était du pur acoustique.
Voilà, à la base c'était du pur acoustique, grosse caisse, charlet, piano. Voilà, le projet est pas né pour faire de la, enfin est pas né pour faire de la scène. On est plus allé dans la rue, dans les tramways, on est parti en piano stop à travers l'Europe où on jouait en bord de route et tout sur les parkings. Et en fait on était attendu pour jouer au Sziget Festival en fait à Budapest. C'est pour ça qu'on a fait ça. Donc c'est les premiers concerts, ça a été sur ce genre de format-là, un peu à l'arrache quoi. Et donc en pur acoustique quoi. Et en revenant de là, j'ai plus voulu faire de la scène. Enfin, j'ai plus voulu accentuer le travail vers la scène. Et donc là, bon, il a fallu développer du projet. Donc je vais pas t'expliquer comment ça a été petit à petit. Mais aujourd'hui, voilà, on est plus sur. Donc on est toujours sur un piano droit. Il y a un Rhodes, un Fender Rhodes, un piano électrique.
Ouais.
Il y a un synthé, un Prophet.
Ouais.
Et un Moog. Que j'utilise principalement comme clavier basse. Et la grosse caisse et le charlet ont été. Je les ai passés en mode électronique, donc du coup je suis sur un setup de batterie électronique où j'ai des pédales pour faire grosse caisse, charlet, ride, cymbale, caisse claire et une percu qui là est un peu buggée là, donc je l'ai pas trop utilisé. Bon, il y avait un problème de placement de trucs, enfin bref. Mais voilà quoi. Thank you. 2016 et 2017, on a passé à, comme je te dis, à faire des festivals sur les rails, donc tous ces trucs sauvages un peu. Festival sur les rails, donc les concerts dans le tramway et le piano stop.
Le tramway, donc le tramway de quelle ville?
Bordeaux.
D'accord.
Ouais.
Parce que toi, t'es de Bordeaux à la base?
Exactement.
Yes.
Et l'idée, ouais, dans ces tramways, c'était le premier truc qui a lancé le projet. Hein. L'idée, c'était de faire une vidéo sur ce concert dans le tramway où on a fini plein de potes et tout, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, donc ça, c'était tout 2016-2017. Enfin, ouais, voilà, la première année, hein, ça a été de faire ce genre de projet, quoi, un peu long et laborieux, donc festival sur les rails, piano stop et tout. Et en revenant de ça, ben, ça fait 2 ans qu'on est plus en mode concert, tournée, ouais. Que j'ai développé le projet vers cette direction-là, quoi.
Ouais.
Donc là, sur ce setup, tout le piano est en mode préparé, mais bon, il y a juste de la pâte à fixe qui est collée sur les cordes, quoi, tu vois.
Ouais.
Sauf que j'ai pas le temps de le préparer au-delà. J'ai fait des vidéos où je le préparais plus.
Ouais.
Mais c'est bien pour la vidéo, mais après pour le live, moi je renie pas du tout le côté synthé, le côté électrique ou électronique, ouais, du truc, quoi, tu vois. Tant que moi je suis dans un cadre homme orchestre, tu vois, c'est ce que je m'impose comme cadre. Après, que ce soit acoustique, électrique ou électronique,
ouais,
j'ai pas de barrière par rapport à ça, quoi. Enfin, j'ai pas de.
Et voilà. Du coup, je me posais la question, dans quelle mesure est-ce que ce que tu joues est improvisé?
Oh là, franchement, un bon 90%, quoi.
Ouais.
Disons que les 10%, c'est savoir que quand je commence un morceau, je sais comment je le commence, je sais qu'on va aller dans telle ambiance ou dans tel, ouais, truc. Et après,
je pars. Quelques, quoi, mélodies.
Voilà, il peut y avoir un ou deux plans rythmiques, ouais, tu vois, que je sais que je vais refaire à ce moment-là.
Ouais.
Mais bon, on parle de plans rythmiques qui durent 10 secondes chacun. C'est après, le but, c'est de savoir ton morceau, est-ce qu'il va durer 5, 10 ou 20 minutes. Bah, ça, je sais pas trop, ça va dépendre. Ça va dépendre, voilà, c'est l'improvisation aussi, quoi. Après, c'est une mécanique aussi, tu sais quand même que ce que t'es capable de faire et tout. Enfin, il y a improvisation, c'est pas que non plus du truc, tu vois, enfin, qui vient de nulle part.
Oui, bien sûr.
Mais en tout cas, c'est pas écrit et c'est pas composé à 100%, donc oui, après, si tu viens me voir 4 fois de suite, bon, bah, tu retrouveras des trucs. Mais t'entendras quand même des trucs que t'auras pas entendu aussi,
ouais,
quoi, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Ou des trucs qui interviennent droit à d'autres moments qui étaient pas intervenus, qui étaient intervenus avant à d'autres, tu vois.
Enfin, ouais.
Il y a quand même une trame, quoi, tu vois, que tu peux reconnaître si tu viens plusieurs fois. Mais moi, je suis dans une logique clairement d'improvisation tout le temps, et avec ses forces et ses faiblesses, quoi, dans le sens où des fois tu peux. Des fois t'es en forme et des fois tu l'es moins, ou des fois tu vas vraiment être porté par le public, ça va donner tel truc, ou des fois t'auras plus d'inspiration, des fois moins. Enfin, tu vois, c'est bon,
oui,
j'accepte ce truc.
C'est les aléas de la scène. Quoi.
C'est le défi et le fait d'être tout seul, en fait, sans boucle, sans looper, sans sample, sans truc, sans machin. Mmh. C'est-à-dire que dès que t'arrêtes de jouer, ben, y a plus rien. Et du coup, mais en fait, je trouve que c'est hyper propice à l'improvisation, ouais, quoi, tu vois.
T'as travaillé avec des samples et des prods, des trucs?
Non, jamais. Ou... Vraiment, l'outil ordinateur m'attire pas de fou, quoi, tu vois. Enfin, je l'ai déjà essayé, mais moi, je suis vachement mieux, en fait. Juste avec les instrus, quoi, tu,
ouais,
vois.
À quel moment est-ce que tu as commencé à... Enfin, l'idée de l'homme orchestre, elle est arrivée à quel moment?
En gros, je suis parti en région parisienne en 2016 et en fait j'étais tout seul sur je connaissais personne du tout sur Paris, et puis là je me suis dit je vais monter un petit set pour proposer ça, je sais pas, un set piano bar, tu vois, à la base c'est parti de là, quoi, tu,
ouais,
vois. J'ai commencé à bosser un truc de reprise ou de compo ou d'improvisation, tu vois, qui serait basé sur le fait que je pourrais éventuellement aller faire du piano bar, quoi,
ouais,
sur Panam, quoi, tu vois, et voilà. Et puis après, moi, en même temps que ça, j'aimais beaucoup la musique des Balkans. Et en fait, je sortais beau, et du coup, quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à pas mal sortir en boîte dans les soirées, parce qu'ils appelaient Balkan Beat, quoi, tu vois. C'est-à-dire ces DJ qui vont mélanger, qui vont prendre la musique des Balkans, mais la rendre un peu plus dance,
ouais,
quoi, tu,
ouais,
vois.
Ouais.
Et ça, moi, je suis aussi fan de musique un peu plus strat, tu vois, mais c'est vrai que j'ai un certain goût pour ce truc Balkan Beat
ouais,
qui tape, quoi, tu vois. Et en fait, moi, j'ai commencé à vouloir, toujours dans ce projet, en fait, de piano bar, je me suis dit, ce serait sympa de faire des reprises de thèmes balkans et tout, quoi, tu vois. Donc j'écoutais les trucs, je repiquais et tout, et puis là je me suis dit, putain, quand même, Balkan Beat, quoi. Ça, enfin, ça serait bien avec un petit kick, quoi, tu vois.
Ouais.
Et donc là, j'ai acheté une Stompbox. Une Stompbox, c'est une sorte de petit truc en bois sur lequel tu tapes avec ton pied, tu vois. Tu branches un jack et ça fait un semblant de grosse caisse, quoi, ouais, tu vois. Plus un orchestre blues, quoi. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et en fait, naturellement, je me suis dit, bon, tu te fais vite chier. Donc, j'ai demandé à des potes à moi de Paris que je m'étais fait entre-temps de me prêter un charlet. Et boum, j'avais mon truc kick charlet, quoi, tu vois.
Ouais.
Est ouvert jusqu'au 29 septembre, du mardi au dimanche, de 14h à 19h pour le public. Le matin étant réservé aux actions artistiques, culturelles en direction du jeune public. Donc il y a tout un programme, une programmation autour d'actions culturelles, donc il peut y avoir des rencontres insolites. Par exemple, très prochainement, il y a une rencontre en deux voies entre une médiatrice et un scientifique géologue qui questionne sur le paysage contemporain, et on l'a invité à venir poser un regard sur les œuvres des artistes et faire une forme de discussion. On va organiser, je te dis, pour te donner des idées, un peu de rencontres publiques.
Ouais.
L'idée, c'est aussi pour les Journées du patrimoine, on va ouvrir jusqu'à 23h avec une projection en plein air dans le cloître de films issus de l'école du Frénois, de la fameuse école d'artistes cinéastes, puisque deux de nos artistes sont issus de cette école, avec prolonger ce regard sur comment l'association avec qui on collabore pose un regard sur l'expo. Soirée cinéma, évidemment, enfin, et des rencontres pour les familles, le jeune public, des livrets insolites, une gazette aussi, c'est-à-dire des interviews décalées sur les artistes,
ouais,
avec les artistes. En tout cas, l'idée d'accompagner une nouvelle forme aujourd'hui de rencontres autour des œuvres dès le moment où l'expo ouvre, et d'inviter à ce que l'équipe de médiation, les médiatrices de Memento, puissent expérimenter au même titre que moi j'expérimente au tout début,
ouais,
les artistes expérimentent, et qu'on puisse recréer de nouvelles rencontres. Donc tout ceci se retrouve aussi bien sur le site du conseil départemental du Gers, donc avec memento-gers.com,
ouais,
sur Facebook il y a Memento Hoche, espace départemental d'art contemporain, vous avez tous les éléments, puisque là je ne pourrais pas tous les citer, mmh, puisqu'il y a des rencontres deux fois par mois pour les publics,
ouais,
tous les mercredis les concerts.
Et donc le calendrier entier, on peut le trouver.
Exactement, des rencontres atypiques. Donc voilà, il y a tout sur les sites, et maintenant je pense qu'on peut trouver facilement Instagram, évidemment. Donc
ouais,
Memento-Gers Hoche, ou sur le site du conseil départemental.
Thank you.